Je me souviens, j'en ai déjà parlé, je pense que j'en ai parlé à l'épisode 50 sur le podcast, également sur le blog. Quand j'ai su que j'étais enceinte, la première chose que j'ai faite, du moins l'une des premières choses que j'ai faites, c'est que je suis allée voir ma supérieure hiérarchique au travail, parce que je savais quelle était ma position par rapport à la parentalité. Et je lui ai dit, je suis enceinte, j'ai besoin d'aller pleurer, je ne peux pas travailler. Elle m'a dit, je comprends, va prendre le temps qu'il te faut pour te remettre. Je vous assure, j'ai fait un mois. Sans même ouvrir mon laptop. I was just down. I was just crying all day. Et avant qu'elle ne me libère, elle m'a posé cette question. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas avoir d'enfant à ce point? Et j'ai répondu sans réfléchir. J'ai donné la réponse qui, pour moi, est la plus vraie parce que elle m'est venue tellement naturellement et à ce moment-là, j'ai compris que c'était ça, la véritable raison, du moins l'une des véritables raisons, parce qu'il n'y a jamais une seule raison à ce qui se passe, aux événements. Je ne veux pas reproduire mes gènes. Tout s'arrête à mon niveau. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast des papotages de C. Aujourd'hui, on va parler de parentalité et cet épisode est inspiré d'une discussion qu'on a eue hier soir sur Caramel Echo avec Rachel Diane Paco qui nous a entretenu sur la compréhension des émotions dites négatives liées à la parentalité. Dites négatives pour une raison très simple. Les émotions ne sont ni positives ni négatives selon les explications de Rachel Diane. Elles sont juste des signaux que quelque chose se passe. Et parfois le ressenti est négatif, parfois le ressenti est positif, raison pour laquelle on parle d'émotions négatives ou positives. Mais en réalité, les labelliser de cette façon-là n'est pas très positif. La session a été plus qu'enrichissante sur ce volet-là, sur la compréhension des émotions, sur la compréhension du problème de labellisation des émotions, sur la gestion des émotions dites négatives quand on est parent. Le replay est disponible sur la plateforme de Caramel Echo, donc pour y avoir accès, il faudra vous inscrire, vous abonner. C'est un abonnement mensuel. Vous abonnez à la tribu Caramel Echo sur caramelecho.com. Vous aurez accès à absolument tous nos replays. Ça fait quand même un an qu'on est dans le coin, donc il y en a beaucoup. Il y a énormément de contenu sur Caramel Echo. Ceux qui rejoignent la plateforme généralement disent: Oh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi riche. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai créé. Ça n'a absolument rien à voir. Si ça avait été merdique, je vous l'aurais dit. Et puis pour le nommer. Aujourd'hui, on va aborder un point de la parentalité dont je ne parle pas souvent. Je me suis rendu compte que je parle beaucoup de l'aspect négatif de la chose, bon, pas négatif, mais pas forcément festif de la chose. En réalité, étant donné que je suis une personne qui analyse énormément ce qui se passe autour d'elle et surtout ce qui se passe dans sa propre vie, généralement, on a plus d'informations du négatif que du positif, parce que le négatif nous signale quelque chose de très profond. Raison pour laquelle je me focalise, du moins je semble souvent me focaliser sur le négatif, parce que c'est là qu'il y a plus d'informations. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'un pan positif de la parentalité, qui est le fait que ce soit nettement moins chaotique que ce que j'avais prévu, que ce que je pensais. Il y a quelques années encore, jusqu'à ce que je sois enceinte, jusqu'à ce que je rentre dans la parentalité de plein fouet. Donc voilà, la parentalité finalement moins chaotique que ce que je pensais. L'épisode sera divisé en trois parties. La première partie est intitulée La force de l'interprétation. Vous comprendrez quand on en parlera. La deuxième partie, c'est moi qui rentre de plein fouet dans la parentalité. Et la troisième partie, c'est ce que je pensais être difficile, qui au final ne l'est pas autant que ça. Je ne vais pas dire qu'au final ne l'est pas, parce que voilà, mais qui au final ne l'est pas autant que ça. Donc, commençons par la force de l'interprétation. Et là, je vous ramène à la discussion avec Rachel Diane Paco qui a inspiré cet épisode-ci. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on a abordé la question des émotions dites négatives quand on est parent. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces émotions-là en rapport avec notre relation à nos enfants, mais c'est un épisode qui parle à tous ceux qui ont du mal à gérer les émotions négatives, par exemple la colère, le stress, la tristesse, l'anxiété. Elle nous a vraiment donné des outils pratiques pour déjà comprendre ce qui se passe et aborder la situation de manière plus informée et donc plus lucide. La particularité, quand on s'intéresse à la parentalité dans son ensemble et à une parentalité intentionnelle et inclusive en particulier, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'enfant en tant que personne et on apprend à le connaître, à comprendre ses ressentis et à les respecter, tout autant qu'on le respecte lui, l'enfant. La partie qui est déstabilisante dans tout ceci, c'est le fait que cet effort de compréhension-là, parce que c'est un effort, étant donné que peu d'entre nous sont nés dans des environnements où l'enfant a son mot à dire, donc notre mode par défaut, c'est de le faire taire au maximum et de le rendre aussi obéissant que possible. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la place au fait que l'enfant fasse naître chez nous des émotions négatives, comme par exemple la frustration, l'anxiété ou whatever. Il doit se tenir calme. Un enfant est considéré bien éduqué quand c'est un enfant qui ne pose absolument aucun problème à ses parents. Pourtant, ça, c'est un enfant traumatisé parce qu'on l'empêche de s'exprimer quelle que soit la situation. On va y revenir. Donc, comme je disais, cet effort de compréhension de l'enfant nous renvoie directement à notre enfance, à nous, parce qu'on comprend qui on a été, ce dont on a manqué, surtout sur le plan affectif, et ça peut faire très mal. J'en ai parlé dans l'épisode 61, lorsque je vous ai fait une update de ma vie professionnelle, ma vie au Bénin, où j'en suis en ce moment. Pour que vous compreniez bien cette partie-ci, qui est intitulée « La force de l'interprétation », je dois revenir sur, vous aurez l'impression que je digresse un petit peu, mais ce n'est pas le cas, restez concentré. Je dois revenir sur la discussion avec Rachel Diane Paco. Elle nous a beaucoup parlé de la colère, qui est une émotion souvent ressentie par les parents pour diverses raisons. Par exemple, le stress, la fatigue, le chaos, le dépassement, la vie difficile, et bien d'autres choses encore, et qui les poussent à avoir certaines réactions envers les enfants. Ces réactions-là surviennent pour des raisons parfois propres à la personne, c'est-à-dire aux parents, mais à la personne qui l'est, qui n'ont rien à voir avec les enfants ou à leur situation de parent. Ils peuvent être tristes ou anxieux, ou whatever, ce qui est parfaitement normal, parce que ce sont des humains. Ces réactions-là surviennent pour des raisons parfois propres à la personne, comme je disais tout à l'heure, qui n'a absolument rien à voir avec les enfants ou leur situation de parents. Le point important ici, c'est la compréhension de l'enfant de ce qui se passe. Rachel Diane dit ceci. Elle dit, un enfant ne considérera jamais son parent comme étant kind of à l'origine du problème que pose la situation. Sa compréhension par défaut, c'est « je suis le problème ». C'est ma faute si ou ça se passe. Je me souviens par exemple que je ne devais jamais vexer ma mère pour qu'elle ne soit jamais triste. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle m'avait demandé, mais j'avais la sensation que si elle était triste ou alors elle était énervée ou alors elle avait une émotion que j'estimais être négative, c'était ma faute. Et là, je vous parle de quand j'avais 5 ans au moins. C'était ma faute et c'était un énorme manquement de ma part et c'était ma responsabilité de la rendre heureuse, c'est-à-dire que de m'arranger pour que cette situation d'énervement disparaisse immédiatement. So that one was a very heavy burden pour l'enfant que j'étais, mais je ne le voyais pas comme ça, je le voyais comme ma responsabilité et je peux vous assurer que ça a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact sur ma vie d'adulte, sur ma façon d'interagir avec les émotions des gens. Je vais vous parler d'un cas, par exemple, d'une personne qui m'est très proche, qui vous permettra de comprendre cette histoire d'interprétation, de la force de l'interprétation. Quand elle était très jeune, elle aimait passer beaucoup de temps avec sa maman était assez occupée. Donc un soir, sa maman est rentrée et elle voulait passer du temps avec elle. Donc elle était là avec elle, à la suivre partout, à lui poser des questions, à vraiment être dans l'espace de sa maman, qui à un moment donné lui a dit « tu me saoules ». Je vous assure qu'il a fallu presque 30 ans à cette jeune dame pour se défaire de ce « tu me saoules ». Et quand je dis se défaire, elle n'est pas encore libérée de ce « tu me saoules ». Ça fait des années qu'elle est en thérapie parce que ce qu'elle a enregistré, c'est qu'elle est chiante et qu'elle est ennuyeuse et qu'en fait, quelle que soit la relation qu'elle a avec une personne, une amitié, une relation amoureuse ou whatever, à un moment donné, la personne se rendra compte qu'elle est chiante et partira. Donc, elle vit, comment est-ce que je vais dire ça? Elle vit ses relations sur la pointe des pieds avec la peur à un moment donné d'être chiante. Juste parce que sa maman, sans réfléchir, à un moment donné, elle était peut-être fatiguée, énervée, anxieuse, pour une raison ou pour une autre, n'avait certainement rien à voir avec la jeune dame, elle lui a dit « Oh, écoute, tu me saoules ». C'est ça la force de l'interprétation et comment on peut le porter toute sa vie. Là, porter, c'est une interprétation. Comment est-ce qu'on peut la porter toute sa vie? Je vous parle de tout ceci pour vous mener à un moment précis de ma vie, c'est-à-dire le moment où j'ai compris que je ne voulais pas d'enfant. Revenons donc quelques décennies en arrière, parce que oui, je ne suis pas votre égale. Je peux dire aujourd'hui, à l'époque, people, j'ai vécu. Au départ, je pensais vouloir des enfants. Ce n'était pas un sujet de réflexion. Les meufs ont des utérus pour cette raison, donc c'était réglé. J'ai pensé cela jusqu'en 2013, par là, 2013, jusqu'à ce que je commence à me poser de véritables questions sur moi, c'est-à-dire qui je suis, si je ne tiens pas compte de toutes les normes familiales, sociales, culturelles. Qu'est-ce que je veux pour moi? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? La vie que j'ai compris que je voulais, c'était une vie sans enfant, sans forcément de conjoint avec qui je vivrais dans la même maison. Je me destinais à une vie de connaissances et de partage, d'acquisition de connaissances et de partage. And I was so happy parce que j'ai vécu comme ça pendant quelques années. Avant d'avoir Caramel. J'avais tracé mon chemin de vie, il était clair. J'allais voyager, vivre dans différents pays, acquérir des connaissances, les partager comme je le fais aujourd'hui, tester différentes choses, le plan professionnel, laisser vivre ma créativité, and stuff like that. Actually, everything I do today, but without a child and without a man. Mais ça, on va y revenir. Donc, c'est vraiment ce à quoi je me destinais. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, ça a été super difficile. Et j'en parle en longueur et en largeur dans l'épisode 50 du podcast intitulé Parentalité, où j'en suis après 4 ans. Je vous explique exactement tout le processus de dépression, de redéfinition et de sortie de dépression qui a accompagné ma grossesse et mon entrée dans la parentalité. Je vous parle également des deux premières années de la parentalité où ça a été très difficile pour moi, la bataille avec mon identité, qui est-ce que j'étais. Parce qu'en fait, tu meurs un petit peu quand tu as un enfant parce que c'est une autre personne, une autre vie que tu as. Tu deviens quelqu'un d'autre qui doit laisser tomber certaines choses, qui doit en adopter d'autres. En fait, ta vie change tellement que il y a carrément une perte d'identité à un moment donné. Donc, j'ai bataillé avec ça pendant 2 ans et j'en parle vraiment en détail dans cet épisode-là. Fast forward à quand j'étais enceinte. Il y a une chose que j'ai comprise quand j'étais enceinte. Je ne voulais pas que mon enfant soit négativement affecté par mon refus d'avoir des enfants et le grand changement que c'était pour moi. Comme je le dis toujours, je ne voulais pas que ma vie soit une introduction à la sienne. Et si vous avez écouté l'épisode 61 dont j'ai parlé au départ, vous savez que ma vie n'a pas été forcément joyeuse. Donc, je me suis donné une mission quand j'ai été enceinte, quand j'attendais un enfant. Il me fallait comprendre exactement pourquoi je ne voulais pas d'enfant, ce qu'un enfant représentait pour moi, pourquoi c'était aussi affreux dans ma réalité. Et ce que j'ai compris m'a brisé le cœur. Je reviens là sur l'interprétation qu'ont les enfants des situations qui se passent autour d'eux. Je ne dirais pas ce que j'ai entendu de mes parents ou ce que j'ai vu d'eux, parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de leur histoire personnelle. Comme je disais tout à l'heure, comme je le disais, on interprète tant ce qu'on nous dit que ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Donc, je parlerai de mon interprétation sans forcément divulguer des choses qui sont propres à l'histoire personnelle de mes parents ou de ma famille. Donc, cette interprétation qui est devenue ma vérité, c'est ça. Les enfants sont un poids. Les enfants sont la fin d'une vie. Quand on a des enfants, on n'a plus de possibilité d'être riche parce qu'ils nous coûteront un bras et on ne pourra plus s'offrir rien du tout. La vie de couple n'est rien d'autre que l'exposition à la douleur, à la honte, à la souffrance. Notez bien ceci parce que je sais que je vous dois un épisode sur le fait d'être la personne dans le couple qui vient avec des traumas. And we will unpack this one in that episode. La vie de couple n'est rien d'autre que l'exposition à la douleur, à la honte, à la souffrance. La famille, ce n'est rien d'autre qu'une succession de déceptions. La famille du conjoint ou de la conjointe n'est pas à fréquenter. And we will unpack this one as well. La meilleure vie, c'est celle sans tous ces gens qui nous empêchent de nous épanouir. Et les enfants en tête, c'est parce qu'à la fin de la journée, c'est à cause d'eux qu'on supporte tout ce qui nous arrive. Avant de poursuivre, je dirais ceci. Mon propos ne signifie aucunement que tous ceux qui ne veulent d'enfants, des personnes qui ont vécu des traumas enfouis. Ça n'a absolument rien à voir. Mais alors, rien à voir. J'en ai certes subi, mais je sais que j'aurais eu une très belle vie si j'avais vécu celle à laquelle je m'étais destinée. Ceux qui me demandent parfois si j'ai des regrets, la réponse est non. Ça, il faut que ce soit bien clair, la réponse est non. Ce sont juste deux vies différentes, ce sont des vies parallèles. C'est deux possibilités aussi valides l'une que l'autre. Je suis très heureuse avec mon enfant aujourd'hui, je ne m'y attendais pas, c'est vrai, mais je suis très heureuse avec mon enfant aujourd'hui et j'aurais été très heureuse sans enfant. Avoir un enfant me montre tous les jours à quel point ma décision de ne pas en avoir était mûrement réfléchie. C'est vrai qu'il y a le grand facteur trauma, mais effectivement, la vie à laquelle je me destinais me montre aujourd'hui que it was something I wanted and je savais consciemment ou inconsciemment la grande responsabilité que c'est d'avoir un enfant et je ne voulais pas l'avoir. So that one has to be clear. C'est une énorme responsabilité et je n'encouragerai jamais qui que ce soit qui ne veut pas d'enfant à en avoir. Jamais. Je ne suis pas de ceux qui te diront « Oh non, quand tu auras l'enfant, tu verras, ça changera, tu l'aimeras immédiatement, machin. » Non, si tu sais que tu ne veux pas faire d'enfant, just don't do it. Ne parie pas sur des possibilités qui sont vraiment totalement, comment on dit ça en français, imprévisibles. Just don't do that. Tu vas ruiner ta vie et tu vas ruiner la vie d'un enfant qui n'a rien demandé au cas où les choses ne se passent pas bien. Et les gens qui vous disent que non, dès que tu entends l'enfant, le ressenti, this can be so not true. Et je parle d'expérience. J'en ai parlé dans l'épisode 50. Écoutez-le et vous comprendrez. This is so not true. Chacun a son expérience. Certains, quand ils entendent leurs enfants, leur cœur change ou alors ils se gorgent d'amour or whatever. Pour d'autres, ils ne ressentent rien. Et les deux expériences sont valides parce que les deux expériences sont possibles. Donc, ne basez pas votre choix sur l'expérience de quelqu'un d'autre. You guys don't know what may happen. So, just don't do that. Donc là, on entre de plein fouet dans la partie 2 de cet épisode, mon entrée dans la parentalité. Je suis entrée dans la parentalité dès le moment où j'ai été enceinte. Je me souviens, j'en ai déjà parlé, je pense que j'en ai parlé à l'épisode 50 sur le podcast et également sur le blog. Quand j'ai su que j'étais enceinte, la première chose que j'ai faite, du moins l'une des premières choses que j'ai faites, c'est que je suis allée voir ma supérieure hiérarchique au travail parce que je savais quelle était ma position par rapport à la parentalité. Et je lui ai dit, je suis enceinte, j'ai besoin d'aller pleurer, je ne peux pas travailler. Elle m'a dit, je comprends, va prendre le temps qu'il te faut pour te remettre. Je vous assure, j'ai fait un mois sans même ouvrir mon laptop. I was just down, I was just crying all day. Et avant qu'elle ne me libère, elle m'a posé cette question. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas avoir d'enfant à ce point? Et j'ai répondu sans réfléchir. La réponse, j'ai donné la réponse qui pour moi est la plus vraie parce que elle m'est venue tellement naturellement et à ce moment-là, j'ai compris que c'était ça la véritable raison, du moins l'une des véritables raisons parce qu'il n'y a jamais une seule raison à ce qui se passe aux événements. Je ne veux pas reproduire mes gènes. Tout s'arrête à mon niveau. Je ne veux pas reproduire mes gènes. Tout s'arrête à mon niveau. Quand je meurs là, c'est fini. Je ne perpétue rien. I'm just dead and it's just done. Parce que malgré... je pense que beaucoup de gens ne comprendraient pas. En fait, j'en ai déjà parlé. Le fait que la tristesse d'une vie ne se mesure pas aux opportunités financières qu'on peut avoir. Ça peut se mesurer également au manque d'attention, au manque d'affection. En fait, les critères de mesure du bonheur ne doivent pas être seulement financiers, surtout quand il s'agit d'éducation des enfants ou alors de vie ou alors d'enfance en général. Parce que souvent, on se dit, tu es forcément heureux parce que tes parents te mettent dans de meilleures écoles, tu es dans des écoles privées, tu as de nouvelles fringues, tu vas à l'étranger pour tes vacances, tu as de la nourriture à ta table, and whatever, whatever. So you have to be happy. Mais ça, ce n'est pas, après, ça dépend, ce que je vais dire, tout à l'heure, je vais nuancer. Ça, ce n'est pas une preuve d'amour, ça, c'est un devoir parental. You have to give me this because I never asked you to come here. You have to take care of me. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'amour, d'affection, de savoir que tu tiens à moi. Quand je dis que je vais nuancer, je dirais ceci. Pour nos parents qui ont vécu dans beaucoup de... dans des situations de scarcity, de manque, pour eux, nous donner cela, nous apporter cette sécurité financière-là, un toit de la tête, de la nourriture à la table, de beaux habits, de bonnes écoles, c'est une preuve d'amour. Donc, je ne suis pas en train de cracher sur ce qui a été apporté. Ce que je dis, c'est que nous venons d'époques différentes, nous avons des besoins différents. Tu ne peux pas aujourd'hui, pour réparer un iPhone 15, utiliser des outils que tu utilisais pour le 3310 de Nokia. It will not work. Ce n'est pas les mêmes époques, ce n'est pas les mêmes devices. So it will not work. Donc, quand je parle de tristesse, d'enfance difficile, il faudrait qu'on soit bien aligné sur ce que je suis en train de dire. Ce que j'ai pensé immédiatement quand je suis enceinte, c'était ma vie est fichue et je vais mourir pauvre. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Je disais que un enfant, c'est la fin d'une vie. On n'a plus aucune liberté. On ne peut plus faire aucun choix par rapport à nous. Tous les choix sont faits par rapport à l'enfant. Et en plus, les enfants coûtent extrêmement cher. Et donc, on est voué à une vie de pauvreté parce que tout ce qu'on aura comme argent ira à l'enfant ou aux enfants. Et je me souviens que je me disais, là, je suis enceinte, c'est catastrophique. I'm just dead, it's just done. Mais que le ciel, la nature et la providence m'accordent une seule chose pour apaiser mon cœur. Qu'il m'accorde que ma grossesse soit celle d'un garçon. Parce qu'en en fait, je me disais naïvement, hein, et certainement, je dis naïvement, mais en réalité, in hindsight, je me rends compte que c'était une vérité que je savais, mais j'avais pas conscience que je la savais. Je voulais un garçon parce que à travers un garçon, je ne reproduis pas qui je suis. Je fais quelqu'un d'autre. Et puis, à travers un garçon, mon histoire personnelle n'est pas frottée au visage des 14 secondes. C'est vraiment quelqu'un dont je suis détachée. We are not the same. we will never go through the same. Il ne me rappellera pas mon histoire parce qu'il est différent, il est dans notre sexe, c'est plus gérable de ne pas avoir un mini-soi quand le soi est aussi difficile à vivre. Je vais dire ça comme ça. Mais à ce moment-là, je me disais juste, je veux un garçon, je veux un garçon, je veux un garçon. Et quand le gynécologue m'a annoncé que j'étais enceinte d'une fille, j'ai éclaté en sanglots sur la table de trucs dans son cabinet. I was just like, I'm done. C'est-à-dire que I was like, donc on ne peut donc rien m'accorder dans cette situation. C'est-à-dire que déjà, je suis enceinte. That one is. Et en plus, je tiens à préciser que c'est pas comme si j'ai pas mis les barrières hein, pour ne pas être enceinte. Non, I did what I had to do. But it happened. So I was like, donc rien ne me sera accordé. C'est-à-dire que I'm pregnant. Et en plus de ça, même pas fichu d'apaiser mon cœur et de me donner un garçon. What is this? Donc, c'est comme si genre, je creuse avec mes doigts, je suis au fond du trou, mais je creuse encore avec mes doigts pour aller plus au fond. I was just done. Just done. Donc, au final, j'ai eu ma fille. Je ne vais pas revenir sur tout l'accouchement, les ressentis, and whatever. Écoutez l'épisode 50, la parentalité, où j'en suis 4 ans après. Vous aurez absolument toutes ces informations parce que cet épisode-là a été considéré par les auditeurs comme le meilleur de ce podcast. So, you people should really, really, really go and listen to it si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, partie 3, ce qui est moins difficile que je le pensais. Oh, je vais adorer enregistrer cette partie. I know that. Parce que là, j'en parle, je sens déjà mon cœur qui est tout content, tout heureux. La première chose qui a été moins difficile que je le pensais, c'est aimer mon enfant. Je n'avais pas prévu de l'aimer. Je me disais, je ferai toujours tout ce dont cet enfant aura besoin. Je m'arrangerai pour qu'il ait absolument tout. Mais je ne peux pas garantir de l'aimer parce que je n'ai pas de contrôle dessus. J'ai le contrôle sur mon action. Je n'ai pas le contrôle sur mes ressentis. Et avec tout mon vécu et avec mon rapport à la parentalité, I know that il est fort possible que je n'aime jamais cet enfant. Ça ne voulait pas dire que j'allais être méchante or whatever, non. Ça ne voulait pas dire que j'allais être désagréable or whatever, non. Mais quand je parle de ne pas aimer, c'est-à-dire que je n'allais pas forcément avoir l'amour parental. Hein. J'allais avoir de l'affection, très certainement, parce qu'un enfant, c'est adorable et moi, j'aime faire des bisous au bébé. Mais cet amour parental-là, I was not sure that I could have it. Et au final, il est né. Ça s'est construit avec le temps. J'en parle dans l'épisode 50. Il n'a pas été immédiat. Il s'est construit avec le temps, mais d'une manière très douce, très calme et sans aucun conflit interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bataille entre moi et moi. It just happened. J'ai appris à la connaître and it just happened. Et ça, c'était vraiment moins difficile que ce que j'avais prévu. Alors là, moins difficile. Et j'aime l'aimer. J'ai aimé commencer à l'aimer. J'ai aimé comment je l'aimais. Et j'aime comment je l'aime aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous posez la question de savoir quel est votre ressenti par rapport à l'amour que vous ressentez. I'm happy to love her. Pas parce que, je le dis toujours, pas parce que c'est mon enfant. Hein. Ah oui, un peu de ça aussi, on ne va pas se mentir. Mais plus pour qui elle est. She's just special. She's so much fun. J'aime être avec elle. J'aime passer du temps avec elle. She's really a fun person. En français, malheureusement, je n'ai pas de how do you call this thing? Je ne sais pas comment le dire en français, mais en anglais, je dirais I like her and I love her. Ce n'est pas la même chose. I like her and I love her. Donc, je suis fan de l'amour que je porte à mon enfant. En gros, c'est ça. Le point suivant, c'est mettre sur pied le cadre éducatif de mon enfant. Je n'avais jamais pensé à ça parce que je n'avais jamais envisagé de me retrouver dans cette position-là. So, I was like, okay, now I'm having a kid. I really have to sit down and think about it. Et je dirais que quand on dit que le casting du partenaire avec qui tu es ou de la partenaire avec qui tu es est très important, on s'est vraiment posé pour définir le cadre éducatif notre comportement éducatif envers l'enfant et on s'est rendu compte qu'on était aligné sur énormément de choses. J'ai envie de dire sur tout. Je n'ai pas beaucoup vu de... Non, je n'ai pas vu de désaccord à ce niveau. On était vraiment, vraiment, vraiment aligné. Je vais vous donner un petit peu quelques éléments de ce qu'on a pu faire pour notre adorable enfant. Parce que oui, elle est adorable, notre Caramel. On a décidé d'avoir une éducation gender neutral pour Caramel. Why? Pour une raison très simple. L'éducation genrée pose problème. On a compris, on a vu aujourd'hui avec les résultats, avec la société dans laquelle on vit, avec le comportement, du moins avec la considération qu'on a pour les hommes ou pour les femmes, avec les discriminations and whatever, que l'éducation genrée ne marche pas. Donc pour notre fille, on a voulu une éducation gender neutral. J'en ai beaucoup parlé il y a 4 ans quand je l'ai eu. J'ai même écrit dessus sur le blog. J'essaierai de vous retrouver l'article, de le mettre dans la description de l'épisode. Et je tiens à ce que vous me félicitiez parce que l'épisode précédent, j'ai mis absolument toutes les sources. Je n'ai pas vu d'applaudissements. Quand je ne mets pas les sources, là, on vient me crier dessus. Mais quand je mets là, tout le monde est très calme. Please. I need my flowers. Merci. Donc, éducation gender neutral. Pour nous, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que notre fille n'était considérée pas comme un garçon. Elle n'était pas considérée comme un garçon, comme une fille. Elle était considérée comme un enfant, tout simplement. Est-ce que c'était genre extrémiste au point où on n'avait pas de pronom? C'était un they et non un she et un he? Non, ça n'allait pas jusque-là. Et c'était plus dans le comportement envers elle. Elle n'était pas vue comme une fille, elle n'était pas vue comme un garçon, elle était vue comme un enfant. Elle était habillée comme un enfant, elle n'avait pas de vêtements genrés. Et ça, j'aimerais bien en parler. En tout cas, dans l'article, j'ai bien précisé tout ça. Mais j'aimerais parler des robes et des jupes pour les filles. This one, we should stop that. We should stop. On devrait arrêter de mettre des jupes et des garçons et des robes aux filles si on n'est pas capable de leur mettre des petits shorts en dessous. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est des choses basiques qui, à la fin de la journée, ont un énorme poids. Quand un petit garçon est à son short ou son pantalon ou whatever, il peut courir, sauter, grimper, faire tout ce qu'il veut, vivre sa meilleure vie. En fait, vivre une vie d'enfant parce que les garçons ont plus l'opportunité de vivre une vie d'enfant que les filles. Donc, il peut vivre sa vie d'enfant sans aucun stress. Sauf que quand la fille, elle a une jupe ou une robe, très tôt, c'est-à-dire que très tôt, dès qu'elle peut se mouvoir, on se met à lui crier dessus, à lui reprocher des choses immédiatement. Une fille ne se tient pas comme ça. Baisse ta robe, baisse ta jupe, on voit ta culotte. Ne fais pas ceci, ne monte pas là parce qu'on va voir ta culotte. En fait, l'enfant n'a pas la capacité de se mouvoir parce qu'on est focalisé sur le fait qu'on va voir sa culotte et que ses parties intimes seront exposées. Réglons ça. En couvrant ses parties intimes. I don't understand. Il faut enlève la robe en fait. Enlève la robe ou soit fichu de lui mettre un collant en dessous, ou un petit short en dessous or something. Pourquoi est-ce que, à cause d'un vêtement, on va empêcher un enfant de vivre sa vie d'enfant? Un enfant est fait pour courir, pour grimper, pour sauter, pour ci, pour ça. C'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il se développe. Il a besoin de faire sortir cette énergie-là, de découvrir, parce que là, il devient Christophe Colomb, de découvrir son environnement. Et puis voilà. Mais fichez-lui la paix avec cette histoire de robe, de machin. Et puis les cheveux. Je me souviens que j'ai été très attaquée sur les cheveux de ma fille qui n'était jamais... Elle avait son afro libre. Ouais, mais non, mais c'est une fille, mais c'est ci, mais c'est là. Pourquoi est-ce que je vais faire asseoir un enfant d'un an ou moins pendant des heures? Je vais lui tirer les cheveux à gauche, à droite, parce qu'elle est une fille. Et que l'autre, parce qu'il est un garçon, il peut vivre sa meilleure vie. Mais laissons-les vivre leur vie d'enfant. Moi, j'avais une règle claire. Elle aura des tresses quand elle va demander des tresses. Je ne fais rien du tout qui va l'empêcher de vivre sa vie d'enfant. son afro, déjà, son afro, j'avais j'ai eu un gros afro pendant 10 ans, donc je savais m'en occuper. Son afro, je ne le peignais pas parce que moi, mes cheveux, je ne les peignais pas. Je savais comment en prendre soin sans avoir les peignés. So she was living her best life. Her best life. Mais les gens à l'extérieur étaient, ouais, tu vas en faire un homosexuel, tu as envie de. On aurait dit que tu rêves vraiment. En fait, comme je disais à l'époque, je voulais un garçon, les gens disaient, ouais, mais en fait. Tu refuses que ta fille soit une fille parce que tu voulais un garçon. Pourtant, ça n'avait absolument rien à voir. Je voulais que mon enfant ait exactement les mêmes opportunités, les mêmes chances, qu'il soit un garçon ou une fille. On met trop de poids sur les épaules des petites filles. On met trop de poids et on ne se rend même pas compte de comment est-ce que ça les ralentit. Rendez-vous compte qu'un petit garçon, une petite fille toutes les semaines, elle a 2 heures de jeu en moins que son frère parce qu'elle doit s'asseoir et on lui tire les cheveux à gauche, à droite, alors qu'elle n'en a même pas envie, en fait. Et ça continue dans les études. Le garçon, il peut continuer d'étudier autant qu'il veut. La fille doit s'asseoir pour faire les 13. C'est à elle de faire le ménage, c'est à elle de faire la cuisine parce qu'elle est une fille. Et après, on est étonné que les garçons aient de meilleures opportunités que les filles. It doesn't work that way. Et ça commence au niveau de l'éducation, du cadre éducatif qu'on met en place pour les enfants. Et Caramel Echo, oui, je fais ma publicité, Caramel Echo prépare une classe sur ce sujet-là. Éducation gender neutral et les questions à se poser pour une éducation de son enfant en phase avec ce qu'on veut pour lui. So, we are working on that. Et écrivez-moi sur Instagram, vous connaissez mon at, @c_befoun, pour me dire si cette classe vous parle. Ok, je continue. Donc, outre le gender neutral, oui, voilà. Les poupées. We didn't have that. Elle a une poupée qui lui a été offerte à l'école quand elle avait 3 ans. It was never us. Et j'ai aimé son comportement par rapport à cette poupée. Cette poupée n'est pas son bébé. C'est une poupée. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de poupée? Parce que généralement, c'est qu'on ne se rend tellement pas compte de certaines choses. On met dans les bras de la petite fille un bébé. Oh, occupe-toi de ton bébé. Oh, change la couche de ton bébé. Oh, c'est-à-dire qu'on la prépare à ne pouvoir faire que ça dans sa vie. Et après, on est étonné quand elle a 25 ans, qu'elle dise, oh, moi, ma vie, c'est les bébés, je veux être femme au foyer, je ne veux pas me développer, je veux... En fait, je ne dis pas que les femmes au foyer ne se développent pas, mais je veux dire qu'elle peut manquer d'ambition, en fait, parce qu'on l'a préparée uniquement à ça. Et on se rend pas compte que ça commence avec les jeux d'enfants. C'est ton bébé, nourris-le. Ah, ton enfant est par terre, il faut le prendre. Ah, machin. Mais quand un petit garçon a un nounours, ce n'est pas son bébé. C'est son ami, c'est son copain. Lui, il n'a pas à garder les bébés à 0 ans. C'est la fille qui doit le faire. Big no. It was just a big no. Il y a eu beaucoup d'autres éléments, mais ça, je peux en parler ad nauseam jusqu'à demain. D'où la classe sur Caramel Echo que je suis en train de travailler. So, we'll work on that. Donc, on passe au point suivant. On parlait de mettre sur pied le cadre éducatif de mon enfant. Ok. Donc, je ne gronde pas, je ne crie pas, je ne punis pas. I don't do that. We don't do that. Les gens disent, ouais, vous aurez un enfant totalement impossible. Vous êtes fini, vous êtes mort. Vous aurez un enfant qui va vous pourrir la vie. J'ai un enfant hyper adorable qui ne fait absolument aucune gaffe. This is so funny. Parce que on nous dit que seul l'enfant battu, l'enfant tapé, l'enfant grondé est un enfant qui se tient droit. Et nous, on fait totalement le contraire. Et notre enfant se tient plus droit que les enfants qui sont grondés, tapés et tout ce que tu veux. Je ne gronde pas, je ne crie pas, je ne punis pas. Ça ne veut pas dire que je ne me fâche pas. Pourquoi est-ce que je ne gronde pas? Pour une raison très simple. C'est pas parce que j'ose le ton que ce que je dis a plus de sens. C'est parce que je suis le parent que si j'ose le ton, voilà, c'est la parole suprême. It doesn't work that way. Je dois parler à l'enfant d'une manière qu'il comprend, pas d'une manière qu'il effraie au point où il suit ce que je dis sans comprendre, juste parce qu'il a peur. It should not work that way. Je ne gronde pas, je ne crie pas sur l'enfant. Quand je m'énerve et que je sais que je ne peux plus supporter, je dis à son père que bon, papa suffit ici. Toi, tu es plus calme que moi, vas-y. Généralement, c'est comme ça qu'on gère. Quand je sens que lui, il commence à monter, je lui dis, bon, laisse tomber, je vais gérer ça. Sur ce coup-là, on est super complémentaires. Et si un a parlé durement, l'autre lui dit que, bon, tout à l'heure, là, quand même, tu as été un peu dur et on va présenter des excuses à l'enfant pour lui expliquer. Et ça aussi, c'est genre, ouais, non, si tu présentes des excuses à un enfant, ça veut dire que tu te rabaisses et il ne va pas te respecter. Yeah. In fact, la classe du caramel école est importante. Vraiment, je mets tout mon cœur dedans parce que il y a tellement de choses à déconstruire. Tellement de choses à déconstruire. Un enfant ne doit pas respecter son parent et lui montrer par la peur. Si ton enfant a peur de toi, ton enfant est traumatisé. Si ton enfant a peur de toi, ton enfant attend une seule chose, pouvoir sortir de ta maison pour pouvoir vivre sa vie. On parle souvent des personnes âgées qui sont abandonnées par leurs enfants. On dit, ouais, les enfants ingrats and whatever, whatever. Mais on ne se pose jamais la question de savoir ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont ressenti et ce sentiment de liberté qu'ils ont loin de leurs parents. Et c'est tout ça, ce sont ces comportements-là qui font ça. Pourquoi est-ce que je ne punis pas? Pour une raison très simple. La punition n'est pas pour moi, et selon mon expérience avec ma fille, ce n'est pas quelque chose déjà qu'un enfant comprend. Un enfant ne comprend pas la punition à zéro. On lui dit, ah, va au coin, tu fais ceci. Il va au coin apeuré, il ne comprend pas pourquoi il est au coin, en fait. Moi, je ne fais pas un enfant quelque chose qu'il ne comprend pas. Mon but, c'est qu'il comprenne que, en fait, si tu as fait ça, voilà la conséquence. And this is not good. Please don't do that again. J'explique beaucoup. Mon conjoint et moi, on explique beaucoup à notre fille. Ce n'est pas du genre, ouais, si tu fais ça, on ne sort pas demain, on ira pour le cinéma comme prévu. Ce n'est pas lié. Le cinéma et ce que la personne a fait, ce n'est pas lié. Ça, ce sont des raccourcis. Gère ce qu'il a fait. Comprends pourquoi il a fait. Explique-lui pourquoi ce n'est pas bon de le faire. Et il ne le refera pas. Et s'il le refait, tu lui dis que je t'avais dit la dernière fois, tu as vu, voilà, ça, on a la même conséquence. Please. Behave. Ce n'est pas en retirant des avantages à l'enfant ou en lui retirant des opportunités que tu en fais quelqu'un de plus responsable. Peut-être quand l'enfant sera nettement plus âgé, qu'il sera adolescent, mais dans l'enfance comme ça, un petit enfant comme ça, tu lui dis que oui, bon, tu n'auras pas de viande si tu parles mal à ton frère. Mais j'ai la raison pour laquelle il parle mal à son frère. Arrange ça. Et aussi, assure-toi que ce n'est pas parce que toi-même tu parles. En fait, il est possible que l'enfant te copie. C'est pour ça qu'il fait ça. Et quand tu lui cries dessus, c'est totalement... il se perd, en fait. Mon parent fait ça. Le parent est suprême parce qu'il fait bien. Mais quand moi, je fais ça, on me retire mes privilèges de viande. So, it's confusing. C'est comme ça qu'on vit dans la peur parce qu'on ne sait pas. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais parce qu'on n'explique rien, on nous menace pour tout. We don't want that in our house. Je ne gronde pas, je ne crie pas, je ne punis pas. Je ne dis pas non inutilement. Je ne dis pas non inutilement. Il y a ce truc-ci où généralement les parents disent souvent non parce que ça les fait chier. C'est-à-dire que par exemple, tout à l'heure par exemple, j'étais assise sur le lit et ma fille me dit « Est-ce que je peux sauter sur le lit ?» Et je veux lui dire non. Mais après je me pose et je me dis « Ok, pourquoi est-ce que je lui dis non ?» Parce que ça va m'agacer. Est-ce que c'est une raison valable? Non. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire que, est-ce que si elle saute sur le lit, c'est dangereux? Non. Est-ce que si elle saute sur le lit, ça pose un problème? Non. Donc, pourquoi est-ce que j'ai envie de dire non? Parce que ça va m'agacer. Ce n'est plus une raison valable. Donc, je lui ai dit, ok, tu peux sauter sur le lit, mais please, ne saute pas du côté où je suis. Et puis, fais attention, ne pas tomber. Point. Mais non, je ne dis pas non parce que j'ai envie de dire non, parce que je suis le parent qui fait ce qu'il veut. Non, je dis non quand ça vaut la peine de dire non. Donc là, elle comprend la valeur de mon non. Quand je lui dis non, il n'y a même pas de négociation, de machin, de ceci, de cela, non. Il n'y a pas ça. J'ai dit ok, tu as dit non. Elle sait très bien quel est le poids de mon non. Et puis, il y a autre chose. Les enfants mimiquent, apprennent à vivre par rapport à comment ils vous voient vivre. Ma fille, avant de toucher la moindre chose, elle te demande, est-ce que je peux toucher ça? Est-ce que je peux prendre ça? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire ça? Pour une raison très simple. Dès le jour zéro, on lui demandait avant de toucher ses affaires, est-ce que je peux te faire un bisou? Je demande toujours. Et quand elle me dit non, je dis non, c'est non. Parce que je veux lui apprendre l'intégrité de son corps lui appartient. C'est pas parce que je suis adulte ou parent ou whatever, j'ai déjà parlé ici ad nauseam des attouchements. Et ça vient du fait qu'on fait comprendre aux enfants que les adultes ont des droits sur leur corps. Va faire bisous à tonton John. Non, je ne veux pas. Allez, va lui faire bisous. Ne sois pas impoli. Quand tonton John va venir derrière pour dire qu'allez, viens faire ceci, cela, Elle va se dire, ah, ma maman a dit que si je ne fais pas ça avec tonton John, si tonton John n'a pas accès à mon corps, c'est que je suis impoli. Tonton John, fais ce que tu as envie de faire. Et c'est comme ça se passe. Et après, l'enfant ne dira rien à ses parents parce que le parent lui-même lui fait comprendre que tonton John est suprême et doit avoir accès à son corps. C'est ça la politesse. I don't do that. I do not. Mon enfant sait que son corps lui appartient. Et je pense que j'ai parlé, où c'était ce caramel et couche? J'ai parlé du fait que j'ai très tôt appris les mots à ma fille. Elle sait ce que c'est qu'une vulve, elle sait ce que c'est qu'un pénis. Je ne veux pas les trucs de ah, oh, il a touché mon petit cookie, après ça, on ne peut pas bien expliquer. Non, 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 you have to tell me. I need for you to say the words. Donc voilà, j'ai un enfant qui ne fait pas de bêtises. Est-ce que c'est parce que c'est un enfant spécialissime? Non, c'est par rapport au cadre éducatif qu'on a mis en place, son papa et moi. J'ai dit alors que je ne dis pas non pour rien. Si elle me dit, dès le jour zéro, je veux boire dans un verre cassable, elle me voit boire dans un verre cassable, elle veut faire la même chose. Et je ne fais pas ce que je ne veux pas que mon enfant fasse. Et quand je fais ça, mon conjoint me reprend. Il me dit, voilà, tu fais ça. Si elle le fait après, il ne faudra pas le reprocher. Donc arrête ça tout de suite. Et de même pour moi. Elle me voit boire dans un verre cassable. Si elle veut essayer, je lui donne le verre cassable. Je lui apprends comment tenir le verre cassable, plutôt que de lui dire non, 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 tu es trop petite, ni, 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 ni. C'est comme ça qu'on crée le manque de confiance en soi, en l'enfant, en lui faisant comprendre que il n'est pas habilité à faire ci, il n'est pas habilité à faire ça, il ne peut pas faire ci. Non, non, non. I will just teach you. Je me souviens, j'avais un collègue qui me disait qu'il avait frappé sa fille parce qu'elle avait bu du shampoing. Et je lui ai demandé, est-ce que tu lui as déjà dit à quoi sert le shampoing? Est-ce que tu lui as déjà laisser se laver les cheveux seule pour qu'elle voie comment on utilise le shampoing. Non, elle n'a pas accès à ça parce que voilà, c'est dangereux. Non, c'est dangereux quand tu lui... En fait, l'enfant est plus attiré par ce qu'on lui interdit. Ma fille, les ciseaux, les machins, les ceci, je lui ai appris comment on utilise. Et quand je savais quelque chose de vraiment dangereux pour elle, je lui apprends comment on utilise vraiment un couteau. Et après, je lui dis, mais ça, tu ne l'utilises que quand tu es avec moi, pour que tu ne te fasses pas mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand elle veut toucher un truc, quelqu'un n'est pas sûr, elle me demande, est-ce que je peux toucher? Est-ce que ça va me faire mal? Because she knows. On a établi ça. She knows. Donc, je ne suis pas dans la violence avec elle. Et j'en parlais la dernière fois. Je disais que une de mes plus grandes fiertés, c'est le fait que ma fille ne comprenne pas ce que c'est qu'un fouet. La dernière fois, en jouant avec elle, j'ai fait genre, je me l'ai tapé, j'ai levé la main. Elle n'a pas compris ce qui se passait. She was just like, OK, la suite, c'est quoi? And I was happy parce que je me suis revue en train de me cacher dans un coin parce que j'avais peur qu'on me frappe ou alors en train de sursauter dans, chaque fois qu'un adulte bouge sa main. Because I'm like, c'est une gifle, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il fallait être vraiment alerte pour pouvoir se protéger en tout temps. Et mon enfant n'a pas ça. Elle sait qu'avec ses parents, she's safe, she's fine. Et les gens m'ont souvent dit oui, non, mais tu ne la prépares pas à une vie difficile. Et ça, c'est un élément important de l'éducation que je donne à mon enfant. Je ne la prépare pas à une vie difficile parce que je ne vois pas pourquoi je le ferai. Tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui écoutent ce podcast, cet épisode-ci, que les parents ont forcé à manger, que les parents ont bouffé la narine pour vous enfoncer la bouffe dans la nourriture, machin, machin, ça vous a endurci. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne force pas à manger ce qu'on n'a pas envie de manger. Je ne force pas à finir l'assiette parce que dans le monde, il y a des gens qui ne mangent pas. Je l'ai toujours dit, je vais le répéter, vous le prendrez comme vous le voulez. C'est parce que je finis mon assiette ici que quelqu'un qui n'a pas à manger quelque part va se remplir le ventre. It doesn't work that way. Ce n'est pas lié. Comprendre la souffrance du monde, être empathique et faire ce qu'il faut pour ne pas la propager, c'est une chose. Mais se faire souffrir parce qu'il y a une souffrance, it makes no sense. Absolutely no sense. En plus, quand tu sers un enfant, c'est toi qui décides de la quantité que tu mets dans son assiette. Et tu dis qu'il doit absolument finir ce que toi tu as évalué être assez pour son estomac, sachant que tu n'es pas dans son corps et tu ne comprends pas son estomac. How do people can do that? I don't understand. J'ai posé une question une fois sur Instagram. Je disais aux gens qui me disaient que oui, ton enfant, tu ne vois pas. Une vie difficile, c'est pas bon. J'ai dit, ok, est-ce que ça aurait été bien? Parce qu'aujourd'hui, quand on était plus jeune, la situation économique était déjà assez difficile, right? Est-ce que nos parents, pour nous préparer à une vie bien difficile où il aurait été possible qu'on ne puisse pas se payer un loyer, nous faisait dormir à la belle étoile 4 nuits sur 7 parce que ça allait bien nous former à la vie dehors au cas où on n'aurait plus se loger. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Il faut être super cohérent dans ce qu'on fait. Ça, c'est super important. Non, je ne vois pas mon enfant une vie difficile. Ça ne veut pas dire que sa vie ne sera jamais difficile, mais je veux que la maison soit son safe space. Que quand c'est difficile, là, ils se disent qu'ils peuvent rentrer chez mes parents. Vous me direz, oui, mais non, mes parents ne seront pas toujours là. Quelqu'un m'a dit un jour, une phrase que j'ai eu du mal à comprendre, mais il m'a dit, pourquoi est-ce qu'on ne se préparerait pas aussi pour le positif? Pourquoi est-ce qu'on ne se conditionnerait pas aussi pour le positif? Et ça, c'est une chose que la plupart des gens ont du mal, même à concevoir. Et j'ai été de ceux-là. Je ne prépare pas mon enfant à une vie difficile. Je ne l'oblige pas à manger ce qu'elle ne veut pas. Je ne l'oblige pas. Non, I don't do that. Et à ce truc, par exemple, quand je dis qu'un enfant répond mieux à à l'amour, l'affection et la gentillesse qu'à la violence. Quand ma fille était petite, elle a des problèmes d'allergie, donc elle prend beaucoup de médicaments. On me disait, quand elle commençait à prendre des médicaments, on me disait, non mais tu la forces, tu la bloques, tu bouches le nez, tu fais ci, tu fais ça. I never did that. Si je sais que la prise de médicament est à 10h, je commence à négocier à 8h30. J'ai 1h30 de négociation et je sais qu'à 10h, elle va prendre le médicament à son point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le goût du médicament, l'amertume du comprimé, elle est prête même à le mâcher. Parce que les médicaments ne lui ont pas été introduits comme quelque chose de néfaste, de violent. L'expérience avec les médicaments n'a jamais été négative. So she knows that. Even if it's disgusting, I have to take them for my own health. Parce qu'on lui a expliqué. Prenons un cas simple. Quand ma fille fait une crise, parce que lui, c'est un enfant, elle fait des crises de colère. Quand elle fait une crise, ou que je sois dans la maison, c'est-à-dire que je ne cherche pas à savoir la raison pour laquelle elle est en crise, elle est par terre, c'est sa faute, c'est pas sa faute, or whatever. First thing I do, je viens, je la porte et je la calme. On change, je la sors dans l'endroit dans lequel elle est. Généralement, je la mène dans mon lit, parce que c'est un safe space. Je la mène dans mon lit, je la porte jusqu'à ce qu'elle se calme. Et quand elle se calme, on s'explique. Et très souvent, quand je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que je te sens, elle me dit souvent, je ne sais pas. Et si je ne sais pas, les parents le prennent souvent très mal et giflent. Du genre, oui, mais comment tu veux dire que tu ne sais pas? Non, les enfants n'ont pas toujours les mots. Parce que décrire une émotion, c'est difficile. Décrire une situation qui nous met dans un état particulier, c'est-à-dire que vive émotion, un vif ressenti, c'est difficile de mettre les mots dessus, même pour des adultes. Donc, quand elle me dit « je ne sais pas », je n'insiste pas. Je lui dis toujours ceci. C'est normal, parfois moi aussi, je ne sais pas ce qui m'arrive. And I just move on. Et je lui explique que bon, quand c'est comme ça, quand tu cries comme ça, it's not a good thing. Essaye plutôt de te calmer et de chercher les mots. Si tu n'as pas les mots, just come and tell me and we'll find something. Je ne réponds pas à une crise de colère par de la colère. J'ai essayé, ça ne marche pas. Parce que plus elle s'énerve, en fait, elle s'énerve, je m'énerve. Plus je m'énerve, plus elle s'énerve et puis ça ne se résout jamais. Pourtant, quand je la prends dans mes bras et que je la calme, je vous assure, c'est résolu en 4 secondes et elle fait juste après ce qu'elle était supposée faire. Toujours. Mais alors toujours. Chaque fois que j'ai été irritée, ça ne va pas marcher. Je la prends, je la calme dans mes bras, elle se pose et puis on avance. Parfois, elle n'a même pas besoin de débriefer. It's just okay. Et si jamais je fais quelque chose, elle a souvent ce truc, si elle ne supporte pas qu'on ne l'écoute pas. When she tells you something, you have to listen. Et quand tu ne l'écoutes pas, elle te dit, tu ne m'as pas écouté. Aujourd'hui, elle m'a dit ça. Aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un, elle me parlait, je ne l'écoutais pas. Et elle m'a dit après, je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. Et j'ai présenté des excuses. J'ai dit, oui, c'est vrai, quand quelqu'un te parle, tu dois écouter. Et quand tu as parlé, je ne t'ai pas écouté. And I'm sorry about that. Et ça apprend à l'enfant que présenter des excuses, it's something that should be natural de qui que ce soit. Du coup, elle non plus n'a pas de difficulté à présenter des excuses quand elle fait quelque chose. Jamais. La dernière fois, elle a cassé une de mes bagues. Elle m'a demandé, est-ce que tu es triste? Je lui ai dit, oui, je suis triste parce que j'ai mis ma bague. Et elle s'est excusée. Elle m'a dit, voilà, je suis désolée. J'ai pas bien tenu la bague. J'avais mal au cœur. Mon cœur chauffait, quoi, parce que la bague tenait. J'avais mal au cœur. Mais je sais aussi que c'est un enfant et que cette En fait, j'aurais voulu voir dans ses yeux une vraie tristesse, genre un ressentiment de douleur, quoi. But she's a kid. Elle a déjà fait l'effort de m'expliquer la situation, de me dire qu'elle est désolée. So, avec le temps, maybe, ça va devenir un peu profond, mais on a déjà fait un grand pas. On a fait un énorme pas. So, that one is fine. J'ai dit tout à l'heure que je ne disais pas inutilement non. Il y a autre chose, c'est que je la laisse faire ce qu'elle veut aussi de temps en temps, surtout qu'elle se ramène avec des arguments solides. Quand ces arguments font sens, je ne pose pas un non qui ne fait pas sens. Quand elle demande quelque chose gentiment, calmement, et que je vois que c'est possible, que ça ne va pas changer sa vie, ça ne va pas créer un tsunami ou whatever, I'm just like, OK, you can do it. Par exemple, elle peut se ramener avant le déjeuner, je peux avoir un bonbon. Normally, it's no. Mais voilà, il y a des jours où je dis oui, parce que life is lifing, tu vois. So, je ne suis pas inutilement dure avec l'enfant. Et je me suis rendu compte que je n'ai. En fait, ma sœur, ma grande sœur, a le même principe avec ses enfants. Et ses enfants ne la font pas chier. En fait, je vois plus les enfants qui sont malmenés. Je les vois plus être des enfants difficiles. Et je vois aussi beaucoup de sournoisie qui naît en eux parce qu'ils ont compris que les parents veulent qu'ils aient un certain comportement pour être bien avec eux dans leur relation. Donc, qu'ils soient cette personne-là ou pas, ils font ce que le parent attend d'eux pour être acceptés du parent et pour éviter une tempête. And then, en attendant juste que ils soient assez grands pour se barrer et puis vivre leur vie, quoi. So, voilà. Ça a été nettement plus simple que je le pensais, mettre sur pied le cadre éducatif de mon enfant et vivre ce cadre éducatif au quotidien. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais de frustration. C'est pas ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que je suis contente de le faire. Je suis contente de voir le résultat. Je suis contente de vivre ça avec elle. Et une autre chose que j'ai comprise et qui est plus facile que je n'aurais pensé, c'est que j'ai compris que la discipline requise d'un enfant commence par la discipline au niveau du parent. J'ai énormément de soucis avec l'heure de coucher de ma fille parce que généralement le week-end, je lâche un peu et puis voilà, et puis je m'attends à ce que le dimanche, out of nowhere, elle est sommée à 20h, sauf que le lundi matin, elle a dormi genre à 22h le dimanche, le lundi matin, it's just hell and stuff and stuff. Et je me disais au départ, ouais, mais c'est sa faute et tout machin, mais en fait, non, ce n'est pas sa faute, c'est à moi d'être disciplinée pour qu'elle puisse être disciplinée. Si je dis son heure de coucher c'est 20h, quel que soit le jour, elle est couchée à 20h. Ce qui fait que quelle que soit la situation, we are fine in the morning. Parce qu'elle est habituée à être couchée à 20h, elle a assez dormi, elle est assez reposée, quel que soit le jour, et la journée se passe bien. Du moins bien sur les éléments que peuvent affecter la fatigue et le sommeil. So, discipline for her is discipline for me first. En parlant de sommeil, voilà, en parlant de sommeil, dans un article sur le blog, j'expliquais comment est-ce qu'on avait réussi à la faire dormir. Quand elle avait 3 mois, elle dormait de 17h à 6h. Et ça, ce n'était pas un hasard. We taught her how to do it. Actually, we taught her how to go to bed at 7, parce que c'était 19h qu'on avait décidé comme l'heure du coucher, mais madame a décidé que 17h c'était mieux, et pour notre plus grand bien, ça, pour vous l'assurer, un enfant de 3 mois qui dort de 17h à 6h, c'était le pied. Mais ce n'était pas un processus facile. Comme ça, j'ai dit discipline for her et discipline for us first. J'expliquais tout le processus sur le blog. Faut que je note ça, sinon je vais oublier que je dois mettre l'article dans la description de l'épisode. C'est bon, c'est noté. Comment faire dormir l'enfant à une certaine heure? Ok, d'accord, c'est noté. Ça a duré jusqu'à ce qu'elle ait 1 an et demi. Ça a été brisé parce qu'elle avait fait un séjour à l'hôpital. Du moins, elle avait fait des séjours hôpital à l'hôpital. Donc, ça avait vraiment altéré tout le travail qu'on avait eu à faire. Et aujourd'hui, on en paye encore un petit peu le prix. Mais c'est une méthode qui marche. J'ai une amie qui a élevé ses filles de cette façon-là et qui ont eu ce rythme de sommeil jusqu'après leurs 3 ans. So, c'est une méthode qui marche vraiment. Un autre point qui a été plus facile que je le pensais pour moi, c'est inclure la personnalité de mon enfant dans la manière dont je l'éduque et dans la manière dont j'interagis avec elle. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on s'intéresse à l'éducation intentionnelle et inclusive, on apprend à connaître vraiment son enfant en tant que personne et à respecter qui est cet enfant. And this one was so easy for me parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu pour moi et que je n'ai jamais eu. Ça m'a beaucoup manqué. J'ai toujours dit que mon enfant aura cette opportunité-là. Je la gère par rapport à qui elle est. Je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle n'aime pas. Je sais ce qui marche avec elle, je sais ce qui ne marche pas avec elle. Donc, je ne me fatigue pas à faire ce qui ne marche pas avec elle. Et si jamais j'ai un deuxième enfant, une chose est claire, c'est que je ne l'aimerai pas de la même façon. Parce que ce ne sera pas la même personne. Je vais apprendre à connaître ce deuxième enfant-là et je vais inclure cette personnalité dans le cadre éducatif. Du moins, on va l'inclure, son papa et moi, dans le cadre éducatif. So, that one was... Actually, it was pretty clear. So, yeah, c'était pas difficile du tout. L'autre point, c'est faire de ma fille une priorité et évoluer par rapport à ce que ça signifie. Je n'aurais jamais, jamais, jamais cru que j'aurais eu envie de faire une pause professionnelle pour passer du temps avec ma fille. Je suis pas quelqu'un de carriériste. Je ne suis pas du genre qui te dira que, ouais, non, j'ai des ambitions d'occuper des postes de direction. If it happens, it happens, it's cool. Je suis beaucoup plus, en termes d'évolution, je suis beaucoup plus passionnée par mes propres projets, mes initiatives. Par exemple, je suis beaucoup plus portée sur le fait de porter Caramel Eco et le podcast très haut que sur le fait d'avoir un poste de directrice. That one, c'est nettement moins important pour moi que de porter Caramel Eco et de porter le podcast haut. C'est nettement moins important. Donc, je suis quelqu'un de très acharné dans le travail et je n'aurais jamais cru que j'aurais dit « Ok, je prends une pause pour être avec ma fille. » Parce que oui, cette pause, c'est également pour être avec ma fille. Je l'ai expliqué dans l'épisode où je faisais mon bilan, là, l'épisode 61. J'en ai déjà parlé, je pense, ad nauseam. Donc, voilà, je n'aurais jamais cru que j'allais pouvoir dire j'arrête de travailler parce que je veux être avec mon enfant. Et c'est vraiment ça. I needed to be with her. Parce qu'elle a vécu de grands changements, changé de pays, changé d'école, changé de ci, changé de ça. Et c'est un enfant, donc c'est des choses qui la marquent, ce qui fait qu'il fallait qu'elle soit grounded dans la famille, en fait. Mon boulot me demandait de beaucoup voyager et ça allait augmenter les perturbations. So I was like, I want for her to be grounded. Et je sais que ma fille est très attachée à moi, à son père aussi d'ailleurs. Et je voulais qu'on soit tous les deux présents parce que son papa a toujours eu l'opportunité de travailler de la maison. So it was fine. Je voulais qu'on soit là tous les deux, tout le temps, pour qu'elle puisse être grounded. Par exemple, c'est avec joie. Je ne dirais pas que c'est facile de le matin, mais c'est avec joie que je me réveille tous les jours pour m'occuper d'elle, pour l'emmener à l'école. Je vais la chercher à midi. Parfois, out of nowhere, on se crée un programme, on va manger au resto, on va rendre visite à quelqu'un, we do something, on ne rentre pas à la maison directement, comme c'était le cas aujourd'hui, parce que je peux me l'offrir, je peux m'offrir ce temps-là, ce temps avec elle, and it's so important, et je vois le changement, et elle me dit, j'aime le fait que tu ne voyages plus autant. Je vois le changement pour elle, je vois comment ça joue dans son développement. And I am so happy about that. Mais je n'aurais jamais, jamais, jamais cru. Et même, il y a encore quelques mois, tu m'aurais dit que j'aurais fait une chose pareille. I would have been like, no, not possible. C'est pour ça que j'ai dit, faire de ma fille une priorité et évoluer par rapport à ce que ça signifie. Ça a été une évolution. Et je me suis naturellement adaptée. And that one was so easy. And I'm happy about the fact that it was that easy. Une autre chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout en termes de simplicité, c'est la vie avec un enfant en général. C'est la vie avec un enfant. Je ne dis pas, je répète, je ne dis pas que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile du tout. Entre les nuits blanches, la réflexion perpétuelle autour de la nourriture, parce que j'ai l'impression de penser qu'à la nourriture, qu'est-ce qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'on mange le soir, le petit déjeuner, le goûter, whatever, je ne pense qu'à ça. La fatigue dont on ne semble jamais se débarrasser, l'impossibilité de toute planification, parce que tout dépend maintenant de comment l'enfant se sent, comment il se réveille, si jamais même il dort. Et puis, il y a la disponibilité de la nounou, si on en a une. Parfois, elle t'écrit à 6 heures du matin pour te dire que, oh non, aujourd'hui, je ne peux pas parce que je suis malade, or whatever happened, or je dois aller au village pour 2 semaines parce que this... En fait, ça a été une chose qui a été, qui au départ était très dure pour moi, mais finalement, I eased into it. Le chaos. Je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, je suis prête à ce que les choses ne se passent pas comme j'avais prévu. En fait, je prévois que ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Et je ne prévois rien par rapport à ça parce que I know that tout va dépendre de la situation qui sera en face de moi. Ça a été dur au début. Hein? Oui, ça a été, parce que j'étais quelqu'un d'assez... j'avais un total contrôle sur mes journées, sur mes heures, sur mon temps, sur ma vie. Je savais à quelle heure je me levais, je savais à quelle heure je me couchais, je savais exactement quelles étaient les activités que je devais avoir faites avant midi. Je savais, en fait, tout était planifié à la lettre. Donc, le chaos là n'a pas été facile, mais une fois que j'ai eased into it, c'est devenu vraiment un lifestyle, en fait. Je ne suis plus dans les « il faut absolument que… » It doesn't work that way. Si le minimum vital a été fait, c'est une réussite. Journée réussie, et puis on va avancer. Une autre chose dans le cadre de la vie avec un enfant, c'est voir le monde à travers les yeux tout neufs d'un enfant, des yeux qui ne l'ont jamais vu, répondre à des questions totalement improbables, rire d'un rire franc, parce que cette relation avec un enfant n'autorise rien d'autre que de la franchise, parce que les enfants ressentent et interprètent, voilà, oui, ça Diane, Rachel Diane nous l'a dit, et elle nous a également donné des outils pour réparer l'interprétation des enfants. That one was so important. J'ai beaucoup de fun avec ma fille, j'ai énormément de fun avec elle. En plus, les enfants, ce sont des gens qui ne vivent que pour le fun. Tous les matins, quand ma fille se réveille, je lui pose la question, quel est ton programme du jour? Et tous les matins, j'ai la même réponse, jouer. She just wants to play. That's all. Elle n'a rien prévu d'autre que de jouer. Je veux jouer. L'autre chose que je n'ai pas prévue, mais qui est assez, je ne dirais pas facile, je dirais plaisant, mais aussi parfois très déplaisant, c'est me voir à travers ma fille. Mon enfant ressemble physiquement à son père, mais encore plus à la maman de son papa. Elle lui ressemble énormément. En fait, physiquement, je trouve que elle n'a rien pris chez moi de physique, mais sur le plan du comportement, it's just me. Et c'est très fascinant de me voir, me mouvoir dans un corps différent du mien. It's just like, how did this even happen? How is this even possible that she's so like me? Mais ça, c'est difficile quand on est en conflit, elle et moi. Parce qu'on a la même ténacité. Voilà. Donc, parfois, je suis obligée de plier parce que je sais que me connaissant, she will never back down. Donc, parfois, c'est moi qui ai besoin de plier pour qu'on puisse avancer. Quand je dis plier, ça ne veut pas dire que si elle me dit, je me saute par le balcon, elle va me dire, ok, saute parce que c'est fun. Non, je vais trouver le moyen de négocier, de trouver une solution qui nous arrange tous pour pouvoir avancer. So, that one is fascinating, more than interesting. It's fascinating. Une autre chose qui a été super, super, super positive, c'est guérir grâce à mon enfant. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait d'avoir une fille. In hindsight, je comprends que je ne voulais pas une fille parce que je savais que ça allait être très difficile pour moi d'être confrontée à la petite fille que j'avais. Et j'ai dit dans l'épisode 61, j'en reparle encore, oui, qu'il y a une période récente où ben, mon enfant me faisait beaucoup pleurer parce que ça me ramenait à un moment très difficile de ma vie qui s'est passé au même âge qu'elle a aujourd'hui, 4 ans. Voir à quel point elle est toute petite et me dire que j'ai vécu ça quand j'étais aussi petite was very difficult. So, yeah, je pense que je préférerais avoir un garçon parce que, comme je disais tout à l'heure, il y aurait eu un vrai détachement entre lui et moi. Mon enfant me permet de mieux me comprendre parce que à travers elle, je comprends comment un enfant réfléchit et je me dis, this is who I was, this is how I was, this is where I was, when this and this happened, ça n'aurait pas pu être ma faute parce qu'en réalité, je n'avais pas d'impact dessus. Je n'avais aucun moyen de faire en sorte que les choses soient différentes because it was first of all not my place and second of all, it was just impossible for me to do anything. I was a baby. J'arrive à me pardonner de tellement de choses à travers ma fille. And this is so, so, so. En fait, j'ai pas les mots même pour dire ce que c'est. C'est une expérience incroyable de guérison. Et je sais aujourd'hui que si j'avais eu un garçon, je n'aurais pas eu le même rapport. Effectivement, je n'aurais pas eu le même rapport et j'aurais perdu beaucoup. C'est pour ça qu'on dit souvent que la vie te donne ce dont tu as besoin. And I need this child to be able to heal. Est-ce que c'est son seul rôle sur Terre? Non. C'est un de ses nombreux rôles. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est venue au monde? Non. Elle est venue au monde pour des myriades de raisons. Et parmi ces myriades de raisons-là, il y a certainement celle-là. So, my child helps me so much. Le dernier point que je vais aborder par rapport à la facilité, c'est une des choses qui m'a le plus traumatisée dans le rapport avec l'enfant, la pauvreté. La pauvreté financière, la pauvreté matérielle, la pauvreté, le manque d'argent. À ce niveau, et là je parle pour moi, chacun a sa réalité. Chacun sa réalité, donc je ne suis pas en train de dire que ce que je dis est valable, valide pour tout le monde. I'm just sharing my own experience in everything I do. So voilà. Il y a cet adage qui dit qu'un enfant vient avec l'argent dont on a besoin pour s'en occuper. Et je me souviens quand je pleurais là, je disais à ma sœur, ouais, je suis pas assez riche pour avoir un enfant, I'm just done, I'm just over. And she was like, un enfant vient avec l'argent dont on a besoin pour s'occuper de lui. Et c'est un adage qui est très populaire. Mais je pense que la réalité, c'est que c'est pas ça en fait. En réalité, non. Un enfant ne vient pas avec une certaine chance ou un certain argent. C'est le hustle du parent qui triple, que ce soit au niveau de l'action ou de la réflexion. Le parent fait des choses qu'il n'aurait pas faites si l'arrivée de l'enfant et ce que ça implique n'était pas imminent en fait. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu n'aurais jamais demandé du travail si tu n'avais pas un enfant qui arrivait. Il y a des gens à qui tu n'aurais jamais demandé de l'aide si tu n'avais pas un enfant qui arrivait. Et quand tu regardes ça en te sortant de l'équation, tu diras « ouais, l'enfant vient avec la chance, telle personne m'a aidé ». En fait, non. C'est que l'imminence et l'importance de ce qui s'est passé t'a forcé à trouver une solution à une situation. And est-ce que je dis que c'est facile? Dire que c'est difficile serait mentir. Dire que c'est difficile serait mentir. Je dirais que je me suis donné les moyens aujourd'hui de me mettre dans des situations qui me permettent de gagner de l'argent. Un argent qui me permet de prendre soin de mon enfant et idem pour son papa. So, we are fine. Je ne dis pas qu'on est richissime, qu'on a un yacht somewhere, but we are fine on that one. On arrive à se nourrir, on a un toit au-dessus de la tête, on peut s'habiller, on peut se permettre certains petits plaisirs. So, we are fine. En plus, on n'a pas une vie... exubérante. On se contente vraiment de pas grand-chose. Hein. Je dirais pas qu'on vit dans le scarcity, ça n'a absolument rien à voir, mais on n'est pas des gens qui sont spécialement dépensiers ou qui ont spécialement des envies ou des besoins hyper chers. So, you're just fine. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait quand même le tour. Hein. Si jamais vous avez des questions, vous allez me trouver @cc_bifoun sur Instagram ou mon inbox est ouvert à tout le monde. Vous le savez, je réponds absolument tous les messages. Tous ceux qui m'ont écrit le savent. Ou alors, faites un commentaire sur l'article du blog, du moins l'article sur le blog par rapport à ce podcast. Parce que chaque épisode de podcast est publié sur mon blog medicrition.com. Vous avez tous mes écrits depuis 2018. Si vous voulez remonter plus loin, vous allez sur mon medium.com/@bifoun. Vous avez mes écrits de 2016 à 2018 sur le blog de 2018 à 2020, je pense. Et le podcast de 2019 à nos jours. Donc, beaucoup m'ont dit que j'ai une conclusion brutale du podcast. But if you know me, you know it's normal now. Is it new? This is not new now. People, bye. 1, 2, 3, 4.
Thank you.